Et nous reprenons cette deuxième partie avec tout de suite la bulle de Cyril que nos auditeurs attendent toujours avec impatience et nous également.
Ah oui, c'est clair.
Et je ne sais pas ce qu'il nous a concocté, mais je pense qu'il a un très grand nombre de notes et je le vois
Oui,
rajouter.
tu vois mes notes, elles sont là. Mais en plus, je pense que c'est, je
Et
pense que
donc
c'est
là,
surtout ça.
évidemment, on voit un solitaire en cours.
Et c'est ça qui fait le charme aussi de la bulle, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va sortir du
Ah,
cerveau
mais lui non
absolument
plus.
hallucinant de Mister Cyril. Allez, vas-y.
Allez, à toi.
En fait, vous savez que les jeux de rôle sont utilisés en entreprise pour apprendre à bien réagir face aux autres, à adopter des comportements adaptés. Et donc ça nous enseigne, le jeu de rôle nous enseigne à interagir avec d'autres personnes. Et d'une manière générale, le jeu de rôle ludique, lui, l'interaction est quand même assez violente. Enfin, souvent, on a une épée ou un pistolet laser et c'est une interaction à base
De
de meurtre,
pan
quoi. Enfin,
et
de,
de hargue.
voilà. Et donc, on a des ennemis dans les jeux de rôle. On a toujours besoin d'un ennemi. C'est quelque chose qui motive et tout. Dans Paranoia, c'est les communistes. Enfin, c'est quelque chose qui fait peur, hein. Quelque chose aussi pour séduire les foules. Enfin, mais
Plus près de ton micro.
ouais. Là, est-ce que tu sens ma voix sensuelle dans
Oui,
ton oreille? D'accord.
oui.
Et l'ennemi peut être ennemi parce qu'il est, comment dire, parce qu'il est ennemi de base, un peu comme disait,
Intrinsèquement ennemi, en fait.
voilà, comme disait l'autre, ils sont cons les autres, ils savent pas qu'ils sont cons alors que c'est, non.
Alors, ils savent pas que c'est eux les méchants
Oui, voilà,
et
enfin voilà.
qu'ils croient que c'est eux les gentils alors que c'est nous.
Voilà, exactement. Ou alors il peut avoir été peut-être corrompu, enfin être con, être un ennemi à l'insu de son plein gré. Et, enfin, voilà. Et tout ça pour dire que c'est généralement assez basique quand même. Hein. Donc on a une épée, on a un monstre en face. En fait, quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Donc quand on a une épée, il faut bien un ennemi. Le but, c'est quand même d'avoir une belle bataille, de se sentir bien, d'être un héros de légende. Donc il y a une certaine soif d'ennemis, mais qui peut aussi amener à déshumaniser des créatures intelligentes et à considérer qu'elles sont mauvaises par essence. Et ça, c'est un petit peu quelque part du racisme. J'aurais pas trop chargé politiquement cette bulle, hein, qui est un espace de neutralité, bien sûr. Mais il n'y a pas de
Et
mal, je pense
la
à.
Ligue de protection des orques.
Parlons-en des orques. Parlons de Tolkien, c'est l'exemple typique. Hein. C'est pas un nouveau débat, puisqu'il y a, peut-être, je sais pas moi, il y a 20 ans, il y avait déjà ce genre de débat dans le courrier des lecteurs de Casus Belli. Hein. Tolkien raciste avec ses elfes blonds et ses orques noirs. C'est sûr que dans l'univers rural de la Terre du Milieu, les méchants, quand on lit Le Seigneur des Anneaux, bah à la fin, c'est les Africains et les Arabes, hein, avec leurs éléphants et tout. Et ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Hein, c'est comme ça, il n'y a pas à transiger, on peut leur envoyer des flèches. Voilà. Alors que à la base, bon, ils ont juste été corrompus. Hein, ils sont pas nés méchants, forcément. Ils ont été corrompus par l'ennemi, par Sauron. Et puis, même les orques, à la base, les orques, si vous vous souvenez bien, si vous avez lu, c'était des elfes, à la base. Ils ont été capturés, torturés, ils sont devenus des créatures maléfiques. Mais c'est des victimes, à la base. C'est d'ailleurs un peu dommage. Je suis pas au courant, mais je crois qu'il n'y a pas d'histoire dans laquelle Tolkien rend un peu justice à ces elfes qui ont été.
Ils sont tombés pour la cause.
Bah oui, il n'y a pas de rédemption en tout cas. Visiblement, c'est voilà, ils sont méchants, mauvais par essence, et donc on peut les. Alors il y a plein de jeux comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'éventail des traitements. Alors Donjons et Dragons, effectivement, c'est un jeu où il y a des tas de créatures intelligentes, sensibles, douées de sensibilité, et qui sont mauvaises
Ah,
par essence.
il y a l'idée de l'alignement, c'est-à-dire qu'une créature chaotique mauvaise est forcément méchante.
C'est une super excuse pour l'exterminer.
Voilà.
Voilà. Et en même temps, tu as des créatures, elles sont conçues comme des machines à tuer. Donc, c'est vraiment une excuse pour dire, ben voilà, ôtez-vous tout scrupule. De toute façon, le type, c'est un monstre. Même s'il est pacifique, il ressemble à une machine à tuer. Enfin, c'est vraiment un pouce au crime, quoi.
Et ce dragon est juste un grand prédateur et il nécessite une ère de reproduction afin que son espèce ne s'éteigne pas.
Tout à fait. Ça, hein. On va éviter le syndrome du panda, quoi.
Voilà, c'est ça.
Dans Donjons et Dragons, il y a quand même une petite évolution, j'ai l'impression. J'ai l'impression que il y a eu une espèce de montée du multiculturalisme avec, voilà, petit à petit, on a pu jouer des orques, des créatures de toutes sortes et on a un peu lâché la bride, enfin, le. Sur le côté, oui, alignement, vous pouvez pas en changer sinon vous perdez un niveau, enfin, genre de choses.
Oui, mais est-ce que c'est justement pas le plaisir de jouer un méchant? Parce que par exemple, lorsque la première édition de Star Wars est apparue, les gens ont tout de suite voulu jouer des impériaux pour jouer des méchants. Et donc, est-ce que c'est pas un peu le même principe alors, qui peut être considéré d'un autre point de vue comme une ouverture.
oui. Alors, tu peux effectivement te mettre dans la peau des méchants. C'est intéressant parce qu'il y avait, des suppléments, une gamme de suppléments dans le monde des ténèbres qui proposaient de jouer les méchants.
Oui, bon, dans Star Wars aussi, hein, il y a le guide de l'Empire dans l'absolu. Quoi. C'était les informations, mais c'était pas pour les jouer. Mais...
Oui, normalement, non.
Il y avait Black Dog, qui permettait de jouer des Fomori, donc des créatures mutantes, en fait, qui permettait de jouer des spectres, c'est-à-dire des fantômes absolument... quand on se penche sur la psychologie, il n'y a rien à racheter. Enfin, c'est vraiment... tout est acheté, etc. Voilà, donc c'est encore une vision qui est pas forcément très adulte, hein. On enferme les adversaires dans des petites cases, ça évite d'interagir de manière civilisée comme on le ferait en entreprise, bien sûr. Il y a Warhammer aussi, hein, avec ses ordres qui ont besoin de se détester et d'être irréconciliable parce que il faut bien vendre des figurines et faire des batailles avec. Il y a Warhammer 40 000.
Oui, parce que s'ils font des rondes, bon, voilà quoi.
Il y a Warhammer 40 000, donc qui est un univers aussi très raciste, hein, mais assumé. Enfin, c'est on joue tous après des fanatiques religieux. Vous avez parlé non de Deathwing.
Je crois que tu nous as parlé plein de fois de Warhammer.
Bref. Et sinon, il y avait MechWarrior aussi. J'ai lu un article qui m'a rappelé ça. Mais MechWarrior, c'est un univers où les jaunes sont les méchants, en fait. C'est ça, hein. Il y a des grands clans de nobles. Et en gros, les méchants, c'est le clan Liu, ou je sais plus quoi. Enfin, et c'est, voilà, c'est le péril jaune. Et,
ou 3-16 Carnage dans les étoiles, les PNJ parlent pas beaucoup non plus.
Et en revanche, il y a d'autres. Alors, donc, ça, c'est des univers. Si je pense à l'univers de Tolkien ou à Donjon, c'est quand même des univers plutôt ruraux, je remarque. Enfin, je dis ça, mais c'est pas toujours vrai, hein, parce qu'il y a des grandes villes dans Donjons et Dragons. Mais justement, c'est là qu'on va trouver les prêtres orques loyal bon.
Oui, évidemment, bon. Évidemment.
Non, mais alors, si on prend des univers plus urbains, je me demande si c'est pas et plus cosmopolite, si ça incite pas plus à proposer des univers un peu où on est un peu plus ouvert sur les différentes possibilités. Je pense à Shadowrun, en fait, qui est pour moi un jeu quasiment antiraciste. Où effectivement, il y a des orques, des trolls, mais là, pour le coup, il y a...
Et le polyclub humanis.
Et le polyclub humanis, et les différentes factions de chaque méta humain qui sont aussi... Il y a des racistes partout, en fait. Donc, c'est un message intéressant, parce qu'ils reprennent les codes, justement, du Seigneur des Anneaux, etc. Et puis, pour le coup, ils disent, dans le monde... Dans le monde réel, on frappe pas les gens parce qu'ils sont des orques. Hein. On discute avec eux et puis et ça, je trouve ça très intéressant. Enfin, c'est un jeu de toute façon très très mature de ce point de vue-là. Enfin, je trouve Shadowrun, c'est un super exemple de jeu sympathique. Voilà. C'était à peu près tout. Hein. Vous avez vu mes notes quand même. Hein,
oui, mais.
Mais oui, mais c'est bien, c'est intéressant.
Enfin voilà, du coup, si je.
Et donc, quelle conclusion pourrais-tu apporter à cette.
T'es vache quand même.
Et ben, ça peut être que quand on écrit un jeu, ou quand on écrit un scénario, ou qu'on se pose la question de peut-être de faire une œuvre d'art. Je sais que tu t'es relancé dans le dessin récemment,
oui.
Global. Et ben, on peut se poser la question de savoir, mais alors, en fait, quel est l'ennemi et est-ce que c'est un ennemi pour une bonne raison, une mauvaise raison? Est-ce que, enfin voilà, de se poser des questions là-dessus et d'essayer de sortir un peu des stéréotypes.
Et rien n'empêche de jouer justement avec les codes, c'est en les connaissant qu'on peut mieux les détourner. Je veux dire, l'aventure classique de ce village qui a des disparitions, il y a des kobolds comme t'es niveau 1. Dans un jeu de type donjon et donc forcément les aventuriers vont les cogner sur les kobolds et tu vas te rendre compte qu'au final les disparitions elles sont dues à quelqu'un à l'intérieur du village et les kobolds sont là pour servir voilà, il y a que quelques femmes et quelques gamins, les pères ils sont fait défoncer plus tard et ce sont des pauvres malingres et compagnie. Ça peut être rigolo un petit peu de détourner les codes.
De jouer effectivement sur les perceptions.
Bah oui, pour montrer. Je pense que c'est sur ces jeux-là, les joueurs sont habitués à jouer d'une certaine façon, que ce soit autre chose. Mais on les formate niveau 1, donc ça va être les gobelins, machin. Et ça peut être justement rigolo d'inverser la tendance et de montrer justement. Parce qu'en leur montrant autre chose, et pas en leur servant tout le temps la même chose, justement, t'élèves le jeu, quoi.
Ou plus simplement, si les personnages rencontrent un PNJ qu'ils considèrent comme mauvais car il contrecarre leur plan à eux, et s'il leur explique quelque chose de complètement valide et juste de son point de vue, eh ben ils seront beaucoup plus emmerdés.
En tout cas, il faut trouver une logique interne aux ennemis et on ne naît pas mauvais. Enfin, c'est une idée puérile, en tout cas. Du coup, il faut trouver une explication pour.
Il faut trouver une raison de les faire parler et non pas cogner. Parce que voilà, tu croises un groupe d'orcs qui vont pas se poser la question, ils vont aller cogner. Mais si tu leur proposes d'autres solutions, et si notamment, tu vois, quand tu prends un jeu comme type donjon, du dungeon crawling classique, on va dire que, tu vois, les gens sont habitués à ce qu'il y ait un combat, par exemple, il aille jusqu'à les MJ. Formaté par rapport aux livres tels qu'ils les ont lus, ils disent voilà, un combat ça va jusqu'à la mort, obligatoirement. Avant il y avait des règles de morale dans les premières éditions et compagnie, donc les monstres au bout d'un moment, si tu veux, ils prenaient cher, ils se taillaient ou ils se rendaient. Aujourd'hui, si tu prends des gens qui n'ont pas connu ces éditions là, qui n'ont pas connu des éventuelles règles de morale, qui alourdissaient les règles clairement, mais qui étaient plus réalistes de ce point de vue là, parce que voilà, eux ils disent bah non, le combat
il meurt toujours jusqu'au dernier,
ah ouais, jusqu'au dernier, évidemment, mais c'est comme ça que ça marche, ou c'est comme ça que ça marche un autre jeu, Warhammer ou machin, alors que non. Faut un petit peu se mettre dans la psychologie du monstre et essayer de voir. Leur chef vient de se faire abattre au premier round et la moitié de leur troupe, les mecs ils font dans leur pagne et ils se cassent en courant ou ils se rendent. Et c'est vrai que c'est le côté sympa de la chose. Mais il faut encore que, et là de ce côté-là, c'est que le boulot du MJ. Faut que le MJ il soit prêt à aller au-delà de sa déformation. Qu'il a pris au cours des années, s'il a toujours joué comme ça, ou avant de devenir MJ, il jouait déjà comme ça avec son MJ, donc il fait pareil.
Enfin voilà, donc un grand cri. Moi aussi, j'ai une âme, je suis un orc, mais j'ai une sensibilité, j'aime les fleurs et les. Voilà, et
les monstres sont nos amis, il faut les aimer aussi, c'est voilà. Ça.
Enfin, de toute façon, si un groupe d'aventuriers armés de sorts de destruction, il n'y a pas beaucoup de. Magicien qui se promène avec des sorts de construction de murets ou faire des trucs utiles, quoi, et d'épées, de haches, etc., croise un groupe de deux gens à la peau verdâtre et armés voilà, de pied en cap, ils sont téléguidés pour leur tomber dessus. C'est pas forcément une critique, c'est un peu la fonction du jeu de rôle, une évasion, c'est un conte de fées, etc., mais au bout d'un certain temps, voilà, on a envie de trouver autre chose que, enfin voilà, moi je sais qu'un jeu où il y aurait un ennemi sans bonne motivation, enfin qui se considère lui-même comme maléfique, ça me perturberait un petit peu, ou en tout cas qui n'est pas une
et qui fasse moi tout seul dans sa tour frappé par l'orage.
Non mais enfin
c'est un épisode de Scooby-Doo, en fait.
C'est pas crédible. Enfin, je sais pas, c'est pas...
Bah, pour le coup, je trouve que, tu vois, dans le paradigme Donjons et Dragons, Pathfinder avait apporté ça, Paizo avait apporté ça dans leurs Adventure Pass, où t'as, tu croises tout plein de PNJ, de machins qui peuvent... Que les joueurs, s'ils s'arrêtent au premier, à la première rencontre et qu'ils veulent les cogner, ils les cognent. Mais t'as toujours des backgrounds bien détaillés, des raisons et des possibilités qui s'offrent aux joueurs. Après, les joueurs les saisissent ou pas, hein, ils peuvent aller direct au combat et ça s'arrête là. Mais tu passes à côté de super histoires et de trucs d'échanges absolument hallucinants, tu vois. Et ça, je trouve que dans le paradigme de Donge, je trouve que Paizo, ils ont apporté quelque chose de vraiment super de ce côté-là. Des aventures plus adultes, plus... Alors, les gens diront plus à la française. C'est vrai, quelque part, parce que c'est vrai qu'en France, c'est quelque chose qu'on a fait tôt. Mais je trouve que c'est bien et ça gagne à... Ça serait bien que ça se fasse pas dans tout jeu, dans tout cas, de montrer que c'est pas juste l'ennemi, c'est le monstre, mais l'ennemi, c'est celui qui a des motivations... Voilà, c'est celui qui croit être dans le qui croit avoir la vérité et qui finalement fait le mal sans s'en rendre compte, par exemple aussi.
Ou pour une cause qu'il estime supérieure, les fins justifiant les moyens, etc.
Exactement.
Et sur une note un peu plus sérieuse, en ce moment, j'ai vu que dans le domaine des jeux vidéo, il y a une polémique sur le harcèlement des femmes ou alors le traitement des femmes dans les jeux vidéo.
Oui.
Et on peut se poser la question, alors les femmes, je sais pas si elles sont maltraitées dans les jeux de rôle, mais les orques le sont. Enfin, non, mais en fait, voilà, qu'est-ce que ça, est-ce que c'est, voilà, on peut se poser la question, est-ce que on projette une image qu'ensuite on emmène dans la vie réelle et qui peut nous influencer ou influencer le lecteur un peu négativement. Enfin bon, il faut remettre les choses à leur place. Hein. Les jeux de rôle sont des lectures tout à fait saines, généralement. Je sais pas, je me pose la question. En tout cas, c'est sûr que... moi, ça me fait plaisir de lire les... Par exemple, Shadowrun, les romans. Je sais pas si vous en aviez lu. Mais c'était rigolo parce que, voilà, il y avait... Des personnages qui étaient pas des elfes beaux, blonds, grands, etc.
Avec des prises de Jack dans la tête et tout ça.
C'était pas ça le plus important dans dans ce monde de jeu. Donc ça,
c'était vraiment une esthétique punk très années 80. Alors,
voilà, c'est peut-être le fils de son époque, Shadowrun.
Les blousons de cuir, les les crêtes rouges et tout.
Ouais, il y avait ça.
Bon, eh bien, merci. Après que tu nous aies déchiffré la trame, nous allons déchirer celle-ci avec Unframed. Wow. T'as vu un peu
je te tiens mon chapeau, Cobal, pour cette transition. Donc oui, depuis un certain nombre de temps, je vous parle des suppléments de Gnomes 2, qui est un éditeur, mais qui est un site avant toute chose, un blog avec tout plein d'auteurs qui parlent dessus. Je vous ai parlé d'un supplément sur la préparation de parties, sur la gestion de campagne, sur les PNJ, sur des accroches de scénarios, des idées de scénarios, des synopsis. Et bien maintenant, il y en a un tout dernier qui est sorti qui s'appelle Unframe, qui est un supplément consacré à l'improvisation. Donc c'est comme d'habitude, comme les deux précédents, Odyssey et Never Unprepared, c'est un livret couverture souple format A5 en noir et blanc avec cette fois-ci vraiment que des pictos, pas d'illustration à part entière, et qui fait 114 pages, que vous pouvez avoir pour 10$ en PDF sur le site de Gnomes 2, ou carrément pour 20$ vous avez et le PDF et le livre. Bon, faut rajouter les frais de port évidemment. Donc, ce supplément, comment est-il présenté ? C'est une série de 23 articles sur l'art de l'improvisation, avec des auteurs, sur l'improvisation, avec des auteurs qui viennent d'un petit peu tous les horizons possibles. Il y a aussi bien Robin Laws que Vincent Baker ou Emily Kerbos ou Jason Morningstar.
Oui, ok. Voilà. De tous les horizons, voilà. Du jeu de rôle américain.
Voilà, c'est ça, exactement. Après, d'un autre côté, ça mélange à la fois des auteurs qui sont publiés par des éditeurs classiques et d'autres qui viennent de la scène indépendante.
Oui.
Et d'autres gens inconnus. Il y a même un vieux de la vieille, vu qu'il y a le créateur de Tunnel et Troll.
Ouais, dedans. D'accord. Okay.
Donc il y a... Voilà, ouais, c'est une sorte de pot pourri en fait.
Ouais, de signature, on va dire.
Voilà, un pot pourri d'articles qui sont globalement assez intéressants. Il y en a quelques-uns qui sont moins intéressants, mais il y a vraiment matière à prendre de partout. Il y a pas mal de bonnes idées à reprendre, même si, quoi, à condition qu'on ne les applique pas déjà, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses que vous connaissez. Parmi ces auteurs, évidemment, il y a pas mal de gens qui font référence au théâtre d'improvisation et aux techniques du théâtre d'improvisation, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est intéressant, c'est un art qui est intéressant à étudier. Et il y a aussi une paire d'articles qui consacrent trop de place à mon goût, mais c'est quand même intéressant, à l'événement qui a poussé un des auteurs à se mettre vraiment sérieusement à l'improvisation à sa table, parce que il surpréparait ses parties, puis il s'est passé quelque chose, et voilà. Donc il y en a deux ou trois, je crois, si je me rappelle bien. Tous sont pas passionnants, mais ça permet de voir un petit peu. Moi, j'aurais préféré avoir encore d'autres conseils. Donc, pour vous présenter le supplément, je vais pas vous faire le point de chacun des articles. Je vais plutôt vous parler de ce que, pour moi, sont des techniques qui sont des grands classiques, que logiquement vous connaissez, et après, des bonnes idées que j'ai vues dans le supplément. Au cours de ces 23
Alors, je tiens aussi à rajouter que l'un des prochains carnets ludographiques avec Wenlock sera justement sur le sujet de l'improvisation, puisque j'en avais discuté avec lui avant que ce sujet apparaisse là.
J'ai le supplément depuis quelques temps, tu vois, fallait que je m'y mette, de le lire.
Donc voilà, on apportera probablement des compléments, ce sera très intéressant.
C'était complètement improvisé, vous n'avez pas préparé ensemble.
Tu vois, on ne parle pas en fait. Donc, dans les grands classiques des techniques d'improvisation, ce qu'on dit généralement, c'est qu'il faut dire oui au joueur et pas non.
Oui, mais.
Voilà, le oui, ça c'est un classique. Le fait de parler et d'observer, quoi, de parler avec les joueurs et d'observer pour savoir ce qui leur plaît le plus, histoire d'utiliser, en fait, c'est utiliser les PJ comme des muses. C'est quelque chose aussi qui est assez classique. Veiller à ce que tout le monde ait son moment de gloire, ça c'est un truc qu'on a entendu de façon classique. Je sais pas, là je parle vraiment de technique globale, c'est pas que de l'improvisation, c'est aussi de la technique à la table. Pour l'improvisation, ce qui est important aussi, c'est savoir lâcher prise, savoir laisser les joueurs modifier ou détruire une intrigue qu'on a passé des semaines à préparer. C'est important aussi, d'où l'importance de l'improvisation. Les gens qui se réfrènent d'improviser, c'est parce que voilà, ils veulent tout. Non, ils ont préparé leur truc. Non, je vais pas foutre ça à la poubelle, tu déconnes ou quoi. Non, là il y a une idée, d'accord. Non, on revient à mon truc.
Je peux raconter une anecdote?
Vas-y, je t'en prie.
C'était, j'ai pas vécu. C'était dans mon club, il y avait deux tables de jeux de rôle généralement en fonction de l'affluence. Et à la table d'à côté, il y a deux ou trois. Enfin bref, on s'en fout. Il y avait une table qui jouait au Seigneur des Anneaux, à JRTM.
Exactement.
Et le MJ était un petit peu débutant, enfin il savait pas trop s'y prendre très bien. Bref, le groupe de joueurs arrive dans la petite ville, et là le MJ dit bon, vous avez deux auberges dans la ville, l'auberge du Loup Gris et l'auberge de la Petite Loutre. Bon, tout le monde vous dit que l'auberge de la Petite Loutre elle est chère, sale et pas très intéressante. Qu'est-ce que vous faites?
Ils vont à la Petite Loutre.
Et du coup, effectivement, pour faire la nique au MJ, ils sont allés voir la Petite Loutre, enfin, ou l'équivalent, et ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils étaient censés aller au Loup Gris.
Et voilà. C'est pas de chance.
Et donc après, il était coincé.
Oui, il était coincé apparemment, visiblement. Alors que je me souviens dans Paranoia, à notre exemple, à un moment, l'équipe de clarificateurs est confrontée à un choix, il faut aller à gauche ou à droite. Et dans le livret, ils expliquent bien, de toute façon, ça n'a aucune importance, qu'ils aillent à gauche ou à droite, c'est le même endroit. l'autre choix, vous en occupez pas, ça sert à rien.
Excellent. Mais donc voilà, donc ça c'est le truc de savoir lâcher prise, c'est quelque chose de classique, important. Après, il y a aussi évidemment l'improvisation, c'est surtout connaître ses faiblesses, donc histoire de préparer des choses qui vous permettent de pallier à vos faiblesses. Exemple, si vous avez énormément de mal à improviser un nom, faites-vous une liste de noms à l'avance, ça c'est classique aussi. L'autre classique, c'est d'utiliser un maximum des sens dans les descriptions, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Multiplier les sens pour pouvoir évoquer des choses. Important quand vous préparez vos PNJ, qu'ils aient des traits, une voix, une diction, une gestuelle, une expression type, des trucs pour pouvoir vraiment donner. Donc ça, c'est la technique de MJ. Et évidemment, veillez à ce qu'il y ait constamment de l'action pour éviter que les joueurs décrochent. Tu vois. Voilà. Ça, c'est bon. Moi, ce que j'appelle, pour moi, c'est des techniques un petit peu classiques.
Ça marche, sauf quand en fait, tu retombes toujours sur les mêmes travers. Alors, il paraît que dans l'interprétation théâtrale, la tendance est toujours retomber sur des histoires de cul, des trucs comme ça, parce que c'est un peu la tendance, la pente naturelle. Et sinon, les maîtres de jeu qui font de l'improvisation et qui ont un modèle type d'auberge en tête, bah, ils en changent pas forcément. Ce qui fait que je me souviens d'une anecdote, je crois que c'était Mathieu Saint-Doux qui l'avait raconté, où en gros le maître de jeu disait: bon, bah voilà, vous entrez dans l'auberge et tout, qu'est-ce que vous faites? Et là, il y a Mathieu qui dit: bon, bah j'entre, je vais au fond, je prends l'escalier, je vais au deuxième étage, je prends la porte de gauche, et là, je suis en face du grand méchant. comment tu le sais? Il disait toujours la même auberge.
Voilà. C'est mais comme ça, il la connaissait bien.
Bah ouais, c'est l'avantage. Donc, pour les bonnes idées que j'ai un petit peu dénichées à gauche et au fil de ces articles, la première, c'est évidemment écouter plus que vous parlez en tant que MJ quand vous improvisez. Ça peut paraître con, mais c'est quand même assez vie. C'est quoi? Pour moi, ça a du sens. Être présent dans ce que vous faites, pas être perturbé par votre téléphone, être en train de préparer la musique du morceau d'après, du machin. Être dans votre impro pour pouvoir réellement créer le contact et donc du coup avoir des joueurs qui soient attentifs à ce que vous faites. Un autre truc qui est le normal c'est chiant, vive l'étrange. Donc pourquoi vous allez vous... Quoi, la conséquence directe c'est grosso modo ne jamais vous auto-censurer. Vous avez une idée, vous dites: oh non, ils vont se foutre de moi, ou non, cette idée elle est vraiment trop con. Non, il n'y a pas d'idée trop con. Ne vous censurez pas, allez-y, balancez vos idées telles qu'elles viennent, dans l'ordre où elles viennent. Elles sont complètement barrées, elles sont complètement connes. Allez-y, je veux dire, toutes les idées sont bonnes à prendre. Au pire des cas, ça marche pas. Et alors, je veux dire, c'est une partie du jeu de rôle. C'est pas la fin du monde. Ça marche pas cette fois, ça marchera peut-être la fois d'après.
Et si vous... Ouais, mais le but là quand même, c'est de donner des conseils pour faire une bonne partie de jeu de rôle.
c'est des conseils pour pouvoir improviser. Et le truc, c'est que, évidemment, comme toute chose, l'improvisation, et surtout si vous y appuyez énormément, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc il faut apprendre. Et de la même façon, en proposant des choses absolument délirantes, des trucs complètement étranges, ça va aussi pousser les joueurs à se lâcher. Les joueurs sont habitués à jouer d'une certaine façon, les MJ sont habitués à jouer d'une certaine façon. Si on commence à sortir du cadre, au début peut-être que ça va déclencher des sourires, mais après, derrière, du coup, les joueurs vont aussi penser mm-hmm. out of the box, hein. Bah voilà, ils vont sortir de leur carcan, le MJ sort de son carcan, et qui mieux que le MJ peut initier lancer le mouvement? Il n'y a pas d'autre possibilité, donc il ne faut pas se censurer. Et il ne faut jamais avoir peur de se planter. De toute façon, c'est en ayant peur de se planter que généralement on se plante le plus. on a peur, et au final, le plantage, ça va être quoi? Les joueurs se font chier. Vous leur proposez quelque chose de classique, quoi, vraiment ultra classique. Au bout d'un moment, les joueurs, ils décrochent, parce que ça les fait chier, quoi. Donc voilà. Après... Ce qui est donc dans la même logique, ce que dit un autre gars, hein, c'est quand vous êtes pris par surprise, utilisez la première idée qui vous vient à l'esprit. Cherchez pas, la première. Votre instinct, c'est souvent la meilleure méthode. Ok, peut-être que ça sera un classique. Allez-y, vous commencez pas, vous allez perdre du temps, vous allez pas être dans le mouvement. Allez-y, prenez la première et allez-y. Et puis vous vous démerderez derrière. C'est aussi con que ça. Une autre idée que je trouve intéressante... Alors, je pense qu'on l'avait évoqué avec Combe quand il faisait la technique en trois, la technique Alexander,
oui,
là.
Oui.
Toujours rajouter à vos descriptions un mais. Donc, je sais pas, l'aubergiste, il est souriant, mais il dégage de lui une odeur vraiment insoutenable.
D'accord.
Il y a un truc, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, un machin. Mm-hmm. Il y a un truc et il y a un mais. Et ce qui va teinter le truc et qui va donner un intérêt à la chose. Et du coup, les joueurs vont... Voilà. Et pour ça, ce qui est intéressant à faire, d'ailleurs, c'est après, derrière, pour s'entraîner à trouver le mais, c'est bêtement d'observer les contradictions dans votre entourage, dans votre environnement. Quelque chose qui dénote. Voilà, vous voyez un truc, quand vous prenez le métro, quand vous marchez dans les rues, quand vous... machin. Essayez, ou regardez vos camarades, vous essayez de trouver justement cette contradiction, ce truc qui dénote du reste du personnage ou du lieu.
T'es en train de nous demander de regarder des gens dans le métro?
Voilà, ouais.
Oui, mais pas de duel de regard, hein. Tu voilà. Regardes juste
pas
le côté.
Pas du stardin. Bon, évidemment, ce que tu disais, en plus du oui, évidemment, il y a le oui est, le oui mais, le non est, le non mais, hein, dans les descriptions, ça marche aussi. Un truc que je trouve bien, je l'ai utilisé moi une ou deux fois, je crois, c'est commencer vos parties par un last time on, quoi, le truc du résumé, mais le résumé il n'est pas fait par le MJ du tout. En début de session, chaque joueur, chacun à son tour, raconte une scène. personne ne l'interrompt, personne ne corrige quoi que ce soit qu'il dit. Et il doit raconter cette scène des yeux de son personnage. Donc comme ça, ça permet au MJ qui va servir des joueurs comme d'une muse
de gagner du temps pour faire son scénario.
De voir, non, mais ouais, oui, bien sûr, mais ça va surtout lui servir à voir ce qu'ils ont retenu, donc ce qu'ils aiment. Et donc du coup, de pouvoir essayer de trouver quelque chose qui vont leur plaire, parce que le MJ va toujours essayer de deviner ce qui plaît aux joueurs, mais il le sait pas forcément. Et des fois, il va se planter. L'entendre de la bouche des joueurs, c'est toujours le meilleur côté de ce côté-là, c'est bien. Donc qu'est-ce qu'ils ont retenu dans le truc? On s'en fout de l'intrigue super développée, machin, qu'ils aient pas retenu le truc. Non, qu'est-ce qu'ils ont retenu? C'était quoi la scène qui t'a... voilà, une scène de l'aventure précédente. Autre technique pour interpréter les PNJ, en fait, quand tu crées ton PNJ ou quand tu l'improvises, pensez avant toute chose, genre à un acteur, genre à un ami, genre à un parent, pour visualiser qui c'est en fait. Et du coup, ça va t'aider à éventuellement travailler, à lui donner une diction, à lui demander. Alors, c'est sûr, hein, si tu utilises John Wayne ou Eddie Murphy dans... voilà.
Hey, salut, mec.
Voilà,
oh,
c'est sûr.
Mais tiens, tu le maîtrises pas mal.
Tu vois, bon, bref. Mais
ça, avec quel histoire vous pourriez faire des concours.
Tu vois, le truc, dans le principe, c'est ça te permet vraiment de pouvoir mieux interpréter ton personnage. Et ce qui est important aussi, c'est d'essayer dans la mesure du possible, ce qui est bien, c'est de mimer la gestuelle du PNJ. Alors au début, les joueurs vont trouver ça un peu bizarre. Et après, du coup, naturellement, si vous commencez à le faire régulièrement, ils vont commencer à mimer la gestuelle de leur personnage. Et c'est super intéressant parce que justement, on rajoute un sens, non plus aux descriptions, mais à l'action. Donc du coup, ça rajoute. Donc ça, toujours dans le principe.
Ouais, sur le jeu des PNJ, il y a un truc que je fais et que je trouve pas mal, c'est de faire des PNJ super caricaturaux pour qu'ils soient très faciles à reconnaître. Et surtout ne pas hésiter à en faire des caisses et à surjouer comme un élève de première année du cours Florent.
Bah ouais, parce que les joueurs s'en rappellent mieux.
Voilà, parce qu'ils s'en rappellent mieux et puis ça lui donne... Bon, après, s'il revient souvent, son caractère va s'affiner.
Oui, mais l'avantage, c'est que...
Mais au moins, il aura une base, quoi.
Bah, c'est le problème de... En fait, c'est lié à la façon dont fonctionne la mémoire. T'as beaucoup plus de mémoire sur quelque chose qui va être étrange ou quelque chose qui te fait rire. Tu vas beaucoup plus se retenir. Alors qu'un truc qui est lambda... tu vas vachement moins l'inscrire. Mais un truc qui va te faire rire, tu vas le retenir. Un truc qui t'aura fait vivre des émotions, tu vas le retenir plus facilement. Donc, un truc où tu surjoues et ça va faire marrer les joueurs, ils vont se rappeler que c'est Roberto l'aubergiste qui... Ouais, quoi. Ça va être des trucs qui vont être utiles. Donc, c'est toujours bien. Pour poursuivre une autre technique, quand les joueurs commencent à... La pression commence à tomber, ils commencent à être passifs, ils vont se rediriger vers leur téléphone ou je ne sais quoi, t'introduis un objet étrange qui les pousse forcément à l'action, genre, tu vois, la scène d'entrée à la Blue Velvet, une oreille au sol, tu vois, une oreille coupée au sol. Et ben, l'air de rien, tu sais pas du tout à quoi va te servir le truc, tu le mets et tu vois ce qu'il en sort. T'écoutes les joueurs, les théories, et tu vas commencer, et tu suis le fil de la pelote, en fait. Tu vois, la pelote, elle est loin, toi, tu remontes le fil pour aller jusqu'à la pelote, et avec les idées qu'ils vont pouvoir te soumettre. Tu mets un objet étrange, tu vas voir ce que ça donne, c'est souvent surprenant. Et toujours dans les techniques pas mal, je trouve, de la même façon qu'il y a le last time on, il y a aussi le truc qu'à la fin de la partie, tu demandes aux joueurs de noter 3 choses qu'ils ont apprises. Alors ça peut pas faire penser à Dungeon World ou tu vois, mais du coup
les
c'est
résolutions de relations, voilà, ou de but de classe de perso en fait.
C'est toujours dans l'idée de la communication avec le joueur et chercher à savoir ce qu'ils veulent pour pouvoir leur donner ce qu'ils aiment. Et donc ça, c'est une technique qui est assez bien. Alors là, je vous parle, en effet, c'est un supplément sur l'improvisation. Toutes ces techniques qui sont évoquées dedans, c'est pas que dans l'axe directement une application directe de l'improvisation, mais c'est des outils qui vous permettent de mieux improviser. C'est ça, c'est de pouvoir donner ce qu'ils veulent. Après, il y a Maggie Baker, qui est la femme de Vincent Baker, qui donne en fait des exercices, je trouve assez intéressants, pour pouvoir développer vos techniques d'improvisation, en tout cas votre facilité à improviser. Un exercice qu'elle prend, vous prenez 2 mots ou 2 objets au hasard et vous trouvez une histoire qui les relie. Là, on parle pas à une table, hein, je parle entre les parties pour essayer de travailler les idées, la vitesse avec laquelle vous allez pouvoir connecter les choses et essayer de créer des histoires. Il y a décrire quelque chose sans jamais la nommer, s'entraîner à vraiment décrire sans nommer la chose pour pouvoir justement faire appel à des sens, à des machins, essayer de donner des images aux joueurs et qu'ils puissent donner le nom. Et ça, c'est utile comme technique aussi, je trouve. Après, il y a l'équivalent de ce que je disais avant, s'asseoir dans un lieu public et imaginer l'histoire des gens que vous voyez. d'où ils viennent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils ont fait de trucs marquants, juste en restant assis, en les observant. Et en t'entraînant à ça, d'une part, ça va te donner des idées, et d'autre part, tu vas aussi retenir des visages de gens.
Ça, je le fais parfois dans le métro en me disant que les gens en face de moi sont des gens exceptionnels, qui apportent beaucoup à l'humanité, etc. Et plus ils ont une sale tête, plus c'est rigolo.
Ben voilà, ben en fait, Cyril, c'est une technique qui, naturellement, il applique tous les jours. Donc, voyez, comme quoi. Je croyais que tu voulais pas regarder les gens dans le métro. Tu vois, comme quoi, hein, tu le fais déjà.
Mais non, mais tu sais, dans le reflet, sur le téléphone, par la vitre, enfin, voilà. Quoi.
Ah ouais, d'accord. Ouais,
pas exagéré, quand même.
Tu devais être fort en optique au lycée. Alors, et sinon, il y a autre exercice, dernier exercice, prendre une personne inintéressante au possible et réfléchir à comment la rendre intéressante, comment lui donner de la profondeur. Donc voilà, un truc toujours technique. Et voilà, dans les autres dernières bonnes idées que j'ai récoltées, il y a un truc pour quand vous improvisez, avoir sous le coude créer des accroches à l'avance, pas des scénarios, des accroches. Donc des scènes, des choses qui vont permettre de pouvoir, comme l'objet étrange, lancer quelque chose et vous en créer un certain nombre et voir et les lancer par à intervalles réguliers, vous voyez ce qui prend, ce qui prend pas. Mmh. Et quand ça prend, bah après vous déroulez vous remontez le fil de la pelote, mais vous avez pas développé ce qui va derrière. Et c'est vrai que c'est le principe de base de vraiment de l'impro. L'impro, si vous voulez vraiment non pas faire des impros ponctuels au sein d'un scénario que vous avez bien travaillé, ça tout le monde le fait. Mais là je parle vraiment de l'impro dans le sens ok, on y va. J'ai trois lignes sur ma feuille et on joue ce soir quoi. Et donc, j'ai une situation de départ, comme on pourrait le faire, comme le fait d'ailleurs régulièrement Eric Nieudan à Dungeon World. Il lance une scène d'ouverture, ouais,
là,
on voit
là,
ce qu'il
a. Les règles permettent ça super facilement.
Ouais, mais tu peux le faire avec n'importe quel jeu. Dans
oui, ouais, mais justement, avec n'importe quel jeu, les conseils que tu donnes sont vraiment super importants.
Oui.
Alors qu'ils sont peut-être Wars, un peu moins.
Oui,
voilà.
Tout à fait. Mais donc voilà un petit peu les bonnes idées que j'ai trouvées là-dedans. Donc c'est un supplément assez bien rempli. Je pense que véritablement l'objet en lui-même, moi je l'ai en papier et je l'ai en PDF. Objectivement, c'est un truc qui se lit très simplement sur PDF. Ça se lit vraiment tranquillement. En plus, quand vous le commandez, vous l'avez aussi en EPUB si vous le voulez en EPUB. Il y a vraiment pas besoin d'acheter le bouquin. Je pense qu'il faut acheter le PDF. Vous l'avez, vous allez lire ça. Bon, je vous en ai retenu un certain nombre, mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a des techniques diverses et variées qui sont abordées. Ça, pour moi, c'est les plus intéressantes. Mais il y a matière. Et donc, voilà pour ce supplément d'Unframe que je vous conseille sans modération. Comme d'ailleurs, globalement, les suppléments de Gnomes 2, sachant que sur leur blog, ils reviennent généralement sur un certain nombre de choses. Avant de faire des suppléments, il y a plein d'articles sur énormément de choses rapport au métier de MJ. Et ce site, gnomes2.com, je pense, tout bêtement, il y a quoi, vous tapez Gnomes 2 sur Google et vous l'aurez. Il y a vraiment, vraiment énormément de matière et de plus en plus d'auteurs qui interviennent, qui viennent faire des petits billets par-ci par-là. C'est très intéressant, je trouve. Je trouve que ça vaut vraiment le détour. Et si vous avez jusqu'ici toujours craint de faire vraiment de sauter le pas pour faire une partie, juste une, en full impro, avec trois notes. En préparant les choses sur lesquelles vous savez que vous êtes faible, pour pouvoir vous pallier au truc, ben je pense que c'est peut-être un bon supplément à lire pour vous mettre, pour vous donner un petit peu confiance en vous. Et après, ben, vous inquiétez pas, vos joueurs ils vont pas arrêter de jouer avec vous juste parce que vous vous êtes chié dessus sur une partie.
C'est un supplément de développement personnel pour elle.
Exactement,
MJ.
C'est pour ça que c'était moi qui devais le sujet.
Et oui, c'est vrai.
Qui devais le critiquer, évidemment. Tu penses bien. Mais c'est un peu ça, en fait, hein. Les suppléments de la Gnomes 2, quelque part, c'est soit vous fournir des outils, soit, voilà, il y a un petit peu là pour ça, c'est un peu le supplément développement personnel. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais vous, donc, l'impro, alors, si je veux élargir le débat, comment vous la gérez, vous?
Alors justement, en fait, j'ai parlé de ce sujet avec Sébastien pour l'un des prochains numéros qu'on n'a pas encore enregistré.
Donc t'as pas le droit de dire ce que t'as dit alors.
Non, mais on l'a pas encore enregistré du tout. Quoi.
Ah d'accord. Ouf.
Et en fait, le sujet m'intéresse justement parce que je sais pas du tout faire ça et que je suis souvent complètement figé avec un écran blanc.
Est-ce que c'est pas un peu
et il se passe quoi? Rien.
Est-ce que c'est pas une histoire de pratique, d'expérience?
Ah bah, de toute façon, pour tout, hein, on est capable de tout faire, il faut juste s'entraîner. Donc, si on s'entraîne pas, on n'y arrive pas, il n'y a pas de secret. Hein.
Voilà.
Donc, il faut juste se mettre le bon coup de pied au derrière pour l'essayer. Et je pense que ce supplément, c'est vraiment le bon truc pour pouvoir se donner le coup de pied au derrière. Moi, personnellement, j'ai très rarement fait des scénarios en full impro, quoi, des parties en full impro complète. Ça m'est arrivé d'avoir une intrigue et de l'abandonner en cours de route et du coup de devoir improviser. Mais je suis jamais parti, je crois que j'ai dû le faire deux fois dans ma carrière de MJ, de partir en disant je le fais en full impro cette fois. Mmh. Habituellement, c'était toujours j'avais une trame. J'avais un truc, j'avais des outils, des machins, et ça partait en sucette à un moment, et donc j'improvisais. Mais j'ai jamais, je crois que j'ai que deux fois où vraiment j'ai improvisé du début jusqu'à la fin. Alors que tu vois, Eric Niedan, lui, il fait ça très très bien. Et justement là, moi je vais.
Yannick l'a fait récemment en utilisant en gros le moteur Apocalypse, quoi.
Ouais. Sur Dungeon World, nous, il était parti comme ça quand on a la partie qu'on a faite avec Yannick. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est un truc que moi j'ai envie de commencer à faire, et je pense que je vais le faire pas mal sur. Je vais commencer à le faire sur Hangout. Donc sur le net. Et notamment là je vais lancer une campagne de Star Wars Age of Empires, mais j'ai décidé avec les joueurs qui sont des joueurs tous qui sont potentiellement des MJ, j'ai décidé que j'allais partir avec une situation de départ et on allait voir comment j'allais dérouler, j'allais remonter le fil.
La situation de départ est vous êtes tous en prison impériale.
Ouais, non, j'ai pas encore réfléchi à la situation de départ, j'attends de voir les backgrounds de chacun.
Non,
et on va voir.
Si c'est pour faire du Age of Empire, ça signifie que ça va être du Firefly, donc ils vont être obligés de s'enfuir avec un troupeau de bétail d'une planète perdue.
Je sais pas encore.
Avec juste le plein pour faire deux sauts et voilà.
Bah, les miens là, l'équipe là, elle est en train de se monter et l'équipe ça va être grosso modo la caravane de l'étrange en vaisseau. Si donc je vais avoir vachement d'extraterrestres et je pense que ça va être assez comique. Je pense que je vais bien rigoler, mais voilà.
Et tu avec combien de joueurs
5 joueurs dont pas mal de des d'anciens camarades traducteurs de l'équipe de ouais principalement qu'on a fait L5R Donge etc Warhammer et donc voilà c'est l'occasion de le jouer par Hangout parce qu'ils sont répartis un peu partout et en France donc le Hangout s'imposait et surtout ce qui c'était génial c'est que depuis j'ai découvert qu'il y a une application sous Google Hangout qui permet de simuler les dés de Star Wars Age of Empires.
Ah oui, j'ai vu ça
qui
s'appelle il y a deux jours.
EOTE Hangout Tools. Bref, voilà, si c'est je vous le conseille parce que du coup bah voilà, ça pallie le problème, on va pouvoir du coup jouer par Hangout et Roll20 à Star Wars.
Ouais.
Ouais.
Ouais, mais Roll20 il permet déjà de faire ça.
Non, pas les dés parce que les dés de Star Wars sont des dés spécifiques.
Ah mais oui,
et
exact,
du coup,
oui,
tu es obligé
raison,
d'utiliser mais... d'importer une appli Hangout.
Oui, oui.
Et
d'accord.
Du coup, tu peux le faire. Ok. Donc, parce que Roll20 permet de lancer des dés classiques. Mais comme c'est pas des chiffres, c'est des symboles.
Ouais.
Alors, si tu peux faire une table de correspondance, Eric Nionan m'a expliqué que c'était possible. Mais comme j'ai trouvé l'application, j'ai fait ah, c'est bon. Ne nous embêtons pas. On va utiliser l'application. Ça marchera tout seul. Voilà. Vous tapez EOTE, plus loin Hangout, plus loin Tools sur Google. Et vous tomberez sur un lien qui vous amènera vers cette application pour ceux que ça intéresse.
Voilà.
Donc rien d'autre à rajouter, Cyril, sur l'impro d'ailleurs, ça m'étonne de ta part, tu ne dis rien.
Non mais je t'écoutais.
Parce que,
non,
je suis
mais
sûr que
sur l'impro, en fait, moi j'ai fait, je crois que j'ai pas fait de partie où j'étais en impro full, enfin en tant que maître de jeu. Il m'est arrivé de faire des parties où j'étais avec une masse documentaire compacte, enfin la campagne des masques de Nyarlathotep, bon c'est assez cadré. Mais le modèle sur lequel j'étais le plus confortable sur la fin, c'était une page de notes, mais pas plus. Et puis tout le reste, c'est de l'improvisation quelque part. L'important est de retomber sur ses pattes à la fin. Bon, parfois c'est pas entièrement le cas, mais voilà. Donc c'est un petit peu paresseux peut-être, mais en même temps c'est aussi un challenge. Ça peut être assez amusant quand on sent que on a le flow et que ça se passe bien.
Je crois que c'est un peu dans tout, hein, tu vois, quand tu regardes dans les arts divers et variés, plus les gens montent, entre guillemets, en niveau, plus ils se rendent compte que la paresse, c'est la meilleure solution, l'économie. En fait, t'arrives, t'apprends des mouvements, des choses et machin, on t'apprend des choses en général, et plus tu montes en expertise, plus c'est le quart de millimètre qui a une importance. et le but du jeu, c'est de s'économiser. Ben, je pense que c'est exactement le même principe dans la maîtrise de jeu de rôle. L'improvisation, pour moi, c'est des degrés supérieurs, parce que justement, c'est l'art du fainéant. Et l'art du fainéant, et surtout, elle te ramène à une chose, c'est que tu n'es plus en train de faire un show, mais tu ramènes à l'essence du jeu de rôle, qui est on partage un moment où on s'éclate tous. Mmh. Et c'est pas juste le MJ qui s'éclate ou juste les joueurs qui s'éclatent. C'est
vrai que c'est là où le MJ joue au lieu d'interpréter quelque chose qu'il a déjà pensé, quoi.
Et ça me permet de faire une transition toute trouvée pour un jeu qui a été chroniqué récemment par Steve.
Ouais.
Qui s'appelle Swords Without Master.
Oui.
Je voulais parler rapidement parce que justement, pour moi,
l'essence. Faire un bref retour.
L'essence de ça, c'est ce jeu. J'y ai joué la semaine dernière avec Eric Nieudan, qui y allait en fait en full impro. Il a créé une situation de départ et après on s'est débrouillé. Il a essayé de remonter jusqu'à la pelote. Alors, Swords Without Master, pour moi, là je vous parle vraiment de comment je l'ai vécu. Je vous fais pas une chronique du jeu en lui-même, c'est pas le sujet. C'est un jeu narratif au sens littéraire du terme, vraiment. C'est le meneur et les joueurs, ils vont alterner la narration, ils vont avoir la narration chacun à leur tour, avec un ton imposé par les dés.
Oui, oui.
Pour
le
chaque
fameux Mossad.
Voilà, morne et criard. Nous, on dit, là, les derniers adjectifs maintenant utilisés, c'est morne et criard.
D'accord.
Et le but, c'est de raconter une histoire. Et les joueurs, donc, ils n'incarnent, quoi, les joueurs n'incarnent donc pas uniquement leur personnage. Ils alternent avec le meneur le rôle de conteur. Donc tout le monde devient conteur. Donc on a une place in character et out of character. On est à la fois inside et outside. Et c'est la particularité du jeu. Alors certes, quand on est conteur, on doit raconter, c'est nous qui décidons ce qui se passe pour notre personnage. On n'a pas le droit de décider ce qui va se passer pour le personnage de l'autre. Et le meneur, qui s'appelle l'over player, lui c'est bon, vraiment le meneur aussi, et qui va un petit peu mener tout ça. Donc le rôle du conteur, il tourne à chaque fois que le conteur qui a fini une description, une action, qui est de raconter quelque chose, donne les dés à un autre. Donc soit à un autre joueur, soit au conteur. S'il les donne au conteur, généralement, ça finit une phase de jeu. Parce qu'il y a plein de phases de jeu qui interviennent quand on veut. Donc on l'a testé en mode zéro préparation. Eric avait rien préparé. Aucun des joueurs n'avait lu quoi que ce soit. On avait juste créé nos persos rapidement avec les notes que nous avait donné Eric. Et donc c'est la seule chose qu'on a fait. Donc on a créé l'histoire au fil de l'eau, à partir de cette situation de départ qui a été improvisée par Eric. Voilà, il l'a sorti de son chapeau sur le moment, et puis à partir de là, on l'a rebondi en utilisant la mécanique. Alors, moi je suis habitué donc souvent, la plupart du temps, à être meneur. Je dois avouer que j'ai vachement aimé le fait que l'histoire importait plus que les misères subies par les personnages. Mmh. Que c'est la grande histoire, l'histoire globale qui importe plus que le sort de chacun. Sachant que dans ce jeu-là, la seule façon de mourir, c'est si le joueur du personnage décide de mourir. Le MJ peut proposer qu'il meure, mais c'est le joueur qui choisit.
Oui, hein, on a bien compris dans la critique de Steve que le personnage n'était pas vraiment fait pour mourir dans ce type d'aventure.
Et vous jouez dans du Sword and Sorcery à la Fritz Leiber, à la Cycle des Épées, Farfait le Souricier Gris, et dans un univers où donc vous êtes vraiment libre. Vous n'avez pas de maître, vous ne dépendez de personne. Ce qui est l'exception dans cet univers. Donc j'ai vachement aimé le fait qu'on partage le rôle de conteur. Je trouve ça super intéressant, c'est super dynamique, on rebondit, machin. Le meneur va nous mettre face à des menaces et nous, on va dire comment on va agir ou se laisser embourber par la menace. Hein. C'est possible aussi. Mmh. Parce que selon le résultat des dés, on peut se retrouver à raconter et on se rend compte que les dés nous disent qu'on va essayer, mais on va rater. Donc des fois, les dés te disent tu peux y aller, hein, t'es libre à toi de réussir. Et des fois, le dé te dit ah non, là tu t'es fait dessus. Donc là, tu vas devoir raconter. En revanche, à la table, il y a un des joueurs, en l'occurrence une joueuse, qui a eu du mal à justement avoir ce côté être à la fois dans le personnage et en même temps être au-dessus du personnage, prendre de la hauteur et raconter une histoire globale. Et ça, elle a eu pas mal de mal
Elle
est habituée plus souvent à incarner un personnage et elle n'avait pas l'impression du coup d'incarner un personnage. Et ça, c'est assez atypique. C'est vrai que c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment. C'est un autre paradigme du jeu de rôle. C'est pas la même chose qu'un jeu de rôle classique.
Disons, c'est vrai que on se détache forcément du personnage puisqu'on ne l'incarne pas tout le temps.
Ouais.
Et du coup, c'est peut-être plus facile justement d'envisager de le tuer parce que on trouve que à tel moment de l'histoire, c'est super bien.
Mais la mécanique du jeu, je la trouve vraiment très intéressante parce qu'elle amène vachement à l'histoire. Mais voilà, en tout cas, chez certains joueurs, ça peut être une difficulté de jouer à Sword of Wizard Master parce que c'est pas la même façon de jouer qu'on a l'habitude. Encore plus qu'un jeu à narration partagée, parce que là, c'est pas juste narration partagée, tu racontes ce que fait ton personnage ou tu crées des trucs dans l'univers. Mais là, vraiment, c'est tu racontes soit ce que fait les choses autour de ton personnage, soit tu racontes autre chose. Et donc voilà, donc ça peut rebuter certains, je pense. Mais c'est comme tout, avec un peu de pratique, évidemment, la pilule, elle devrait passer et ils découvriront un autre plaisir. Je pense que c'est ça, quand on est formaté pour avoir le plaisir juste d'être joueur et de n'incarner que son personnage et de se contenter de ça, on a tellement butiné ce plaisir qu'on c'est celui qu'on recherche. Mais c'est intéressant de prendre de la hauteur comme ça et vous verrez que rapidement, vous y prendrez, je pense, du plaisir. Je sais qu'Eric, là, c'était une partie en full impro. Chez Eric, là, va tester en justement préparant beaucoup plus pour voir ce que ça donne. Moi, j'ai bien envie de rejouer évidemment à ce jeu-là et aussi en mode justement moins d'impro pour voir. Mais pour moi, c'est vraiment un jeu qui m'a vachement surpris agréablement et qui m'a vraiment donné très envie de jouer. Et je dirais même, dans ma façon de jouer, je préfère ça à Dungeon World, même si j'ai pris énormément de plaisir à jouer à Dungeon World.
Ah oui.
Ouais, je trouve que
pour ce type, disons que ça n'engendre pas le même type d'histoire de toute façon.
Exactement. En impro, ça peut quand même.
Et donc finalement, quelque part, tu préfères les histoires un peu plus mélancoliques.
Ben, il y a pas que ça. C'est que Sword of the Master, c'est des parties courtes.
Oui,
parce que la mécanique est faite
aussi,
pour pouvoir faire une session en une soirée, en 2-3 heures, tu fais ta partie. Il y a une mécanique qui soutient, qui pousse le truc à faire comme ça. Alors que Dungeon World, tu peux le jouer en campagne complètement. Là, tu pourrais faire une campagne en faisant plusieurs aventures.
Oui,
mais
bien sûr.
Pour moi, c'est un jeu, c'est un des rares jeux où justement, tu peux faire une aventure complète en une soirée, en improvisant la partie sans trop de difficultés. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant à la chose. Mm. Voilà. Voilà mon.
D'accord.
Mon avis sur la chose, Swords Without Masters, c'est bon, mangez-en.
Et par rapport, par exemple, à un abstract dungeon.
Alors, je l'ai pas lu. J'ai écouté la critique de. C'était Jean-Baptiste.
De Jean-Baptiste, ouais.
Ça m'a vraiment intéressé. Donc, je pense que j'ai été le récupérer depuis. J'ai pas encore le temps de le lire et ni de l'essayer. Donc, je compte bien faire les deux. Le lire et l'essayer parce que ça m'a vachement intéressé ce qu'il en a raconté. Donc ça me branche bien. Donc voilà. Et d'ailleurs j'en profite pour passer un message parce que en fait vous savez l'équipe 1 et l'équipe 2, l'équipe A et l'équipe B on communique pas tellement. En tout cas moi je suis loin d'eux tout ça. Yannick je le vois plus, c'est scandaleux.
Oui, donc il vient plus aux soirées voilà.
Essayez de réagir sur la page du blog. Moi j'aimerais bien faire un truc avec Jean-Baptiste pour qu'on fasse un billet sur au hasard quelle version de donjon pour quel type de MJ et quel type de joueur. Voilà. Je t'envoie la balle Jean-Baptiste, je te laisse la prendre au bon et qu'on voit ça ensemble.
C'est la battle là. Il a été défié Jean-Baptiste.
L'idée c'est de le faire ensemble, c'est pas de le faire en opposition.
Là, c'est de faire une émission oui, on va croiser les effluves.
C'est ça exactement, voilà, exactement. Il va falloir croiser les effluves. Voilà.
Bon, eh bien, ma foi, nous avons terminé. Ah oui, juste un truc pour signaler que ce petit salopard de Yannick m'a fait un podcast dans le dos.
Oui, j'ai vu ça, ouais.
Et avec mon matériel en plus.
Avec ton matériel?
Eh oui.
Oh, le scandale. Café Rôliste, c'est ça?
Eh oui, et donc ça s'appelle Café Rôliste et il enregistre ça avec François le midi à la cafette après le repas. Et du coup, ça fait une ambiance très très cosy parce qu'il parle doucement et tout, c'est sympa. Donc, c'est des podcasts qui durent une petite demi-heure sur un thème précis et c'est plutôt sympa. Voilà. Et il a mis le troisième en ligne aujourd'hui, je crois.
Il parle doucement pour pas effrayer le DRH qui déjeune à côté, qui prend son café à côté. Oui, et alors là, je
lui ai tranché la tête.
ça fera un peu brouillon. Ouais. Bah, c'est bien, mais bienvenue dans le paysage podcastique.
Donc voilà, il y a un nouveau podcast rôliste.
Voilà. Okay. Bon, bah, cool.
Et je mettrai le lien.
Ah bah oui,
évidemment. Bon, merci à tous, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Salut.
Ciao.
Salut. Bonne chance au dé.